une heure pour informer. Une émission de Daniel Camilleri.
Notre invité aujourd'hui est le professeur Mohamed Harkoun, professeur d'histoire de la pensée islamique à la Sorbonne Nouvelle, c'est-à-dire à Paris 3. Professeur Harkoun, vous êtes né en Algérie, vous avez vécu à Oran, puis à Alger. Ensuite, vous êtes venu jeune homme à Paris pour suivre vos études jusqu'à l'agrégation de langue et de littérature arabe. Alors, vous avez fait ensuite une carrière d'enseignant en France, vous l'avez commencé à Strasbourg. En 60, vous étiez maître assistant à la Sorbonne, vous avez ensuite enseigné 3 ans à Lyon, 5 ans à Paris 8, avant de rejoindre en 77 Paris, la Sorbonne, et donc depuis déjà 13 ans, votre principal port d'attache. Alors l'enseignement s'accompagne chez vous d'une réflexion intellectuelle qui vous a poussé à écrire un grand nombre de livres et d'articles sur la pensée islamique, sur l'histoire de l'islam, sur ses liens avec la société, la politique, le développement, des sujets qui sont aussi, j'imagine, liés à vos cours à la Sorbonne. Vous venez d'ailleurs d'éditer un livre chez Jacques Grancher, un livre qui s'intitule « Ouverture sur l'islam » et dans lequel vous répondez à 25 questions habituelles qui se posent aux musulmans.
Aux musulmans et aux occidentaux dans les sociétés occidentales d'aujourd'hui. Ah, comment les occidentaux perçoivent-ils l'islam aujourd'hui et comment en parlent-ils? C'est surtout cela justement, c'est un livre qui s'adresse évidemment aussi aux musulmans parce que les musulmans eux-mêmes ne connaissent pas forcément l'histoire de la pensée islamique par exemple. Ils ont beaucoup d'imagination là-dessus. Et donc ce sont des mises au point d'un historien sur tout ce qui se dit aujourd'hui sur l'islam. Et on dit beaucoup de choses sur l'islam dans des directions essentiellement politiques et pas du tout historiques et analytiques, critiques. Et voilà pourquoi ces 25 questions essaient de mettre au point un certain nombre de connaissances qui nous manquent aussi bien dans les sociétés occidentales comme la France où il y a beaucoup de musulmans et où il est très souvent question de l'islam que également pour les musulmans. Car j'ai constaté au cours de mes voyages et de mes conférences, effectivement, aussi bien en Europe, en Amérique que dans le monde musulman, que les mêmes problèmes se trouvent reposés à propos de l'islam et les mêmes ignorances se manifestent, curieusement, du côté musulman et du côté...
Quelles sont les plus grandes failles dans la connaissance qu'ont les occidentaux de l'islam?
Les plus grandes failles, c'est d'abord que la période essentielle de la civilisation islamique, de la pensée islamique, qui s'étend du 7e siècle jusqu'au 13e siècle, cette période qu'on appelle classique, fondatrice de la civilisation et de la culture en islam, est pratiquement ignorée, aussi bien chez les occidentaux que chez les musulmans eux-mêmes. Ça, c'est un fait qui s'explique par l'histoire, parce qu'à partir du 13e siècle, les sociétés musulmanes elles-mêmes ont été soumises à tout un ensemble d'événements qui les ont coupées de cette période classique, de cette période fondatrice et productive. Et du côté occidental, à partir du XIIIe siècle également, l'Occident, on le sait historiquement, a commencé une ascension sur tous les plans, ascension politique, ascension économique, ascension culturelle, qui l'a rendu progressivement indifférent et même hostile au monde musulman. Je rappelle que l'Empire ottoman, qui a été fondé à partir du XVIe siècle, a déclenché de la part de l'Occident toute une rivalité, un ensemble de luttes, de guerres même, avec l'Empire ottoman, pendant 3 siècles, qui ont abouti, surtout dans le monde méditerranéen, des combats dans la Méditerranée pour la suprématie et le contrôle de points stratégiques en Méditerranée, se sont prolongés du XVIe siècle jusqu'au XIXe siècle et ça s'est terminé au bénéfice de l'Occident par la mainmise de l'Occident sur des pays occupés depuis le XVIe siècle par l'Empire ottoman. C'est le cas de l'Algérie qui a été occupée par les Ottomans, de l'Égypte, de la Tunisie, etc. Donc ça c'est une évolution historique qui a eu lieu et qui malheureusement n'est pas étudiée dans les lycées, dans les écoles et même dans les universités. L'histoire du monde méditerranéen, par exemple, en France, n'est pas étudiée dans toutes ses parties, dans tous ses aspects, dans les départements d'histoire des universités. On étudie la Méditerranée du Nord, européenne, mais pas la Méditerranée du Sud. La Méditerranée du Sud est réservée aux arabisants ou aux turquisans, c'est-à-dire qu'il faut aller faire de l'arabe dans le département d'arabe ou de turc pour entendre parler de l'histoire de la Méditerranée du Sud et de la Méditerranée de l'Est. Il y a là une division qui remonte loin dans l'histoire et qui malheureusement subsiste encore jusqu'à nos jours et nourrit cet état d'ignorance qui fait que on ne connaît pas l'essentiel, encore une fois, de la culture musulmane et de la pensée islamique. Cet essentiel étant concentré dans cette période médiévale du 7e au 13e siècle. Évidemment, les musulmans se réfèrent beaucoup à cette période, mais ils s'y réfèrent comme thème de faire valoir apologétique.
On parle de l'âge d'or.
De l'âge d'or, de la civilisation.
Et on parle
c'est un faire valoir apologétique pour essayer de contrer cette espèce de supériorité qu'affirme l'Europe et l'Occident depuis le 18e siècle en particulier. Et les musulmans tiennent à montrer qu'eux aussi ont connu des heures de gloire, etc. Alors ils font valoir cela, mais à titre encore une fois apologétique et idéologique, mais pas à titre de connaissance historique critique. Ça, c'est extrêmement important.
Mais est-ce que ce n'est pas
voilà pourquoi il y a une ignorance partagée.
Est-ce que ce n'est pas justement un des fondements de l'islamisme? Les islamistes, en tant que politiques, utilisent cet argument de l'islam qui a connu un âge d'or et qui disent nous devons retrouver cet âge d'or et nous le retrouvons en retrouvant l'islam.
Exactement. Alors là, c'est une utilisation idéologique, mais aussi une utilisation qu'on appelle en sciences sociales mythologique, c'est-à-dire qu'il y a un mythe de l'âge d'or. Comme on est en train de célébrer en ce moment le mythe de Charles de Gaulle en France. Chaque société a besoin de mythe pour cimenter son unité. Et le thème de l'héritage islamique, de cet âge d'or classique, est un thème essentiel pour cimenter la conscience musulmane contemporaine et pour servir par conséquent de point d'appui à tout un militantisme qui est d'essence politique, bien sûr, et qui essaye de traiter des problèmes contemporains. Et donc là, le fait d'utiliser une période historique comme référence mythique développe la mobilisation des troupes, des militants aujourd'hui à des fins politiques actuelles, mais en même temps, elle devient un obstacle à la connaissance historique. C'est ça le mécanisme.
Oui, parce qu'ils ne comprennent qu'une période donnée, ils ne voient pas ni l'évolution,
ils ne comprennent pas la période, ils projettent en arrière des aspirations qui relèvent du présent. Ils ne comprennent pas la réalité de ce qui s'est passé pendant ces siècles-là. Par exemple, les grands penseurs qui ont écrit de grands ouvrages, de grands commentaires du Coran, qui sont les auteurs de théories juridiques de la loi musulmane, etc., tout cela est très peu étudié et très peu connu d'une façon historique réelle. Mais on projette vers cette période-là des affirmations qui tiennent essentiellement de nos besoins actuels, dans nos sociétés actuelles, pour légitimer des combats politiques actuels. C'est cela le mécanisme du rapport du présent au passé. Mais ça n'est pas particulier aux musulmans. Nous le trouvons, encore une fois, dans toutes les sociétés. La France ne se fait pas faute d'utiliser un passé glorieux aussi pour légitimer et galvaniser des mobilisations actuelles. La célébration du bicentenaire de la Révolution française l'année dernière nous fournit un excellent exemple de cette utilisation par une société d'un passé glorieux pour, encore une fois, renforcer des besoins politiques et des besoins culturels actuels.
Mais les islamistes veulent un retour aux traditions qui ont été élaborées il y a 1000 ans par les exégètes du Coran.
Oui.
Alors, pourquoi ce retour au passé? Je veux dire, en quoi les traditions élaborées il y a 1000 ans peuvent correspondre aux besoins du musulman aujourd'hui dans la société actuelle?
Oui, alors justement, voilà un point, un autre point, un autre exemple qui montre le divorce entre l'approche actuelle en Occident de ces problèmes-là et l'approche musulmane de ces mêmes problèmes. En effet, les musulmans actuellement, lorsqu'ils réfèrent aux traditions d'autrefois et qu'ils disent que ces traditions restent toujours valables, ils se situent sur un plan religieux. Pour eux, ces traditions ne sont pas des créations humaines. Ce sont des révélations divines. C'est Dieu qui les a révélées aux hommes pour leur montrer la voie à suivre pour produire une histoire conforme au dessein de Dieu. Cette manière de concevoir la tradition religieuse comme une révélation faite par Dieu a existé dans les sociétés chrétiennes jusqu'au 18e siècle. Il ne faut pas l'oublier. Les chrétiens, eux aussi, parle d'une tradition vivante qui est faite de, des enseignements du Christ, des enseignements du prophète, qui sont des enseignements divins, qui, de ce fait, ne sont pas soumis au changement dans l'histoire, parce qu'ils ne dépendent pas des hommes. Et les hommes, au contraire, dépendront toujours de ces enseignements, puisque Dieu les a invités à suivre ces enseignements pour le rejoindre dans l'éternité. C'est cela la croyance. Il décrit une croyance là.
Celle des
musulmans, mais aussi des chrétiens, mais aussi des juifs. C'est une croyance commune. Alors, ce qui s'est passé, c'est que depuis le XVIIIe siècle, dans les pays européens, on a coupé avec ces croyances-là. On ne réfère plus à la révélation comme l'instance transcendante où nous trouvons des enseignements qui dépassent l'histoire, qui dépassent la législation par les hommes. Et on a pris comme fondement de la législation dans les pays européens à partir du XVIIIe siècle la souveraineté populaire. C'est ce qu'a fait la Révolution française. Voilà la grande coupure. Vous voyez, cette coupure est mentale. Elle est intellectuelle. Et à partir du moment où vous décidez dans la cité que vous n'allez plus vous référer aux données religieuses, que les croyances dépendent de chacun, du choix privé de chacun, et qu'elles ne concernent pas la législation publique, et que cette législation publique doit être la responsabilité de l'État, État qui est issu du suffrage universel, du vote populaire. Alors, à ce moment-là, vous avez changé la source de l'autorité. La source de l'autorité qui fonde le pouvoir politique, ça n'est plus ce que l'on appelait la révélation, mais c'est la souveraineté populaire. C'est ce que nous faisons chaque fois que nous votons.
Mais alors, comment font les islamistes qui se réfèrent à Dieu et au Coran pour jouer le jeu de la démocratie?
Eh bien, justement, voilà la contradiction. Voilà la contradiction et voilà un point que les islamistes n'ont pas encore même posé comme question philosophique. Car c'est une question de philosophie politique que les philosophes en politique prennent en considération et que les théologiens musulmans ont prise en considération très au sérieux dans cette période classique à laquelle je faisais allusion. Et voilà un exemple d'ignorance de ce qui s'est passé dans la pensée islamique de la part des militants actuels islamistes qui, d'une part, effectivement, proclament l'éternité des enseignements divins et la nécessité d'y revenir pour les appliquer, et d'autre part, ils entrent dans le processus démocratique en substituant de fait, non pas de droit, mais de fait, une souveraineté populaire, exactement comme en Occident, à la souveraineté de la loi divine. Alors, pour eux, évidemment, ils vous diront qu'on fait des élections pour avoir des instances législatives ou des instances administratives, etc. Mais ces instances sont elles-mêmes soumises à la loi divine. C'est ce qui s'est passé en Iran. En Iran, on a fait des élections pour élire le Parlement, mais on a créé un conseil consultatif qui est composé d'autorités religieuses qui veillent à la conformité des lois votées par le Parlement avec les lois coraniques. Ça s'est passé en Iran. Donc, mais évidemment, il y a à boire et à manger. On peut, du point de vue de la critique du droit telle qu'elle s'est effectuée dans la pensée islamique classique, on peut dire beaucoup de choses là-dessus. Il y a énormément de choses qui, justement, ne sont pas prises en considération. Alors là, je ne peux pas entrer dans les détails parce qu'il faudrait beaucoup de cours pour cela, mais c'est une question extrêmement intéressante parce qu'elle touche, je le répète, à des problèmes essentiels de philosophie politique et aussi à des problèmes de ce qu'on appelle la théologie politique. La théologie politique est une discipline pratiquée par les musulmans aussi bien que par les chrétiens, et les juifs aussi, pour essayer de montrer comment on peut articuler une administration humaine dans la cité avec les principes révélés dans les Écritures saintes, dans la parole de Dieu. Ça, c'est une discipline difficile.
Oui, bien sûr. Mais en quoi l'islamisme tel qu'il est conçu en Iran est différent de l'islamisme qui vient de triompher aux élections algériennes?
Oui, alors là, il faut faire une distinction entre les problèmes sociaux politique, culturel, tel qu'il se pose dans chaque société. Et puis, l'islam en tant que corps de doctrine et en tant que tradition de pensée. Il faut bien distinguer ces choses-là. En Algérie, comme dans tous les pays musulmans, ou en Iran, ou en Turquie, ou au Pakistan, ou en Indonésie, tous les pays musulmans, depuis les années 1950-1960, nous avons un certain nombre de problèmes politiques, sociaux, économiques, culturels, qui ont pris une ampleur considérable du fait à la fois d'une population qui a augmenté très très vite dans tous ces pays-là. La population actuelle de tous les pays musulmans a plus que doublé par rapport à ce qu'elle était en 1950. Si on prend seulement le repère chronologique de 1960, les démographes indiquent que 70 à 75% de la population de tous les pays musulmans, depuis l'Indonésie jusqu'au Maroc, a aujourd'hui moins de 30 ans. Vous vous rendez compte, 70% sont nés après 1960. Or, ce nombre est considérable. Et c'est une population de jeunes. Et les jeunes veulent vivre. Ils débouchent dans la vie. Il faut leur donner des logements, il faut leur permettre de se marier, de travailler, de gagner leur vie, de bénéficier des avantages de la société moderne, etc. Et cela est extrêmement difficile à faire dans
mais
les
avec
pays
cette réalité
qui manquent généralement de ressources.
Oui, mais avec cette réalité sociale difficile, comment expliquer que c'est l'islamisme qui fournit l'idéal?
Parce que, j'y viens, je vous ai dit qu'il y avait des problèmes d'ordre sociaux, je viens de le dire, et des problèmes politiques. Le problème politique essentiel, c'est la structure de l'État. Les États qui existent dans les pays musulmans, à part l'Arabie Saoudite et le Maroc, où il y a eu un État depuis longtemps et des royautés qui ont fonctionné depuis très longtemps, la plupart de ces pays-là ont eu des États qui ont surgi des luttes de libération coloniale. Par exemple, la Tunisie, l'Algérie, l'Indonésie, le Pakistan, enfin, beaucoup de pays musulmans ont connu une domination coloniale et au lendemain de la libération, il a fallu constituer des États. Or, ces États ont dû improviser des structures politiques, des structures institutionnelles. Et il y a eu à ce moment-là des modèles qui ont été pris, soit dans l'Europe libérale, soit dans l'Europe démocratique et populaire, les pays de l'Est. Par exemple, l'Algérie a démarré avec le modèle tchécoslovaque et yougoslave de l'autogestion, etc., qui était très en honneur en Algérie dans les années 60 et même jusqu'aux années 70. Et cela, par conséquent, a déterminé des problèmes de communication politique entre ces États qui s'appuyaient sur un modèle politique d'importation et une population qui, tout de même, avait une histoire et des traditions qui ne correspondaient pas nécessairement à ces modèles-là. D'où des divorces politiques dans la communication politique entre les États et la nation. Ajoutez à cela que la nation, précisément, est une construction difficile et que ces États qui viennent seulement de se former ont eu pour tâche, dès le départ, d'unifier des sociétés où coexistent des groupes culturels très différents, souvent, et des tensions de type linguistique ou de type culturel existent dans ces pays que les États ont voulu réduire en insistant sur les moyens unificateurs de la nation. Et ça, c'est un travail extrêmement difficile qui est loin d'être terminé. Donc tout cela, voyez-vous, ça détermine beaucoup de tensions à l'intérieur des sociétés et les méthodes utilisées, par exemple Nasser, pendant toute sa suprématie, car il a exercé une véritable suprématie idéologique sur l'ensemble du monde arabe de 1952 jusqu'à sa mort, eh bien, il a utilisé le slogan de la révolution socialiste arabe. Vous voyez, il insistait sur le socialisme, il n'insistait pas sur l'islam comme modèle pour pouvoir transformer la société égyptienne et les sociétés arabes en général. Et ça, ça a duré jusqu'à sa mort. Et c'est devant l'échec de cette tentative de transformation des sociétés en nations unifiées avec des idéologies qui empruntaient beaucoup aux idéologies des Lumières, que progressivement, dans les années 70, il y a eu la substitution du modèle islamique au modèle révolutionnaire d'inspiration socialiste.
Donc l'islamisme, ce n'est pas quelque chose qui est apparu comme ça. Vous voulez dire que c'est un processus qui est enclenché depuis, en fait, dans la mémoire des Arabes depuis très longtemps.
Absolument, absolument. C'est ça que l'on ne comprend pas, et c'est cela que l'historien a le devoir de rappeler pour montrer la profondeur et la force de cette référence. Ce n'est pas un champignon qui pousse après la pluie.
Oui.
Ce sont des forces très profondes qui ont été jusqu'à présent mal dominées, mal gérées aussi, parce qu'il faut faire la critique de ces États qui ont introduit des options idéologiques extrêmement discutables dans beaucoup de pays, n'est-ce pas, et qui ont créé par conséquent des problèmes, qui ont multiplié les problèmes au lieu de les résoudre.
Oui, mais alors maintenant, ce qui fait peur à l'Occident, c'est l'expérience en Iran, qui finalement est une expérience d'un islamisme totalement intolérant et d'un islamisme autoritaire et qui enferme et qui exécute et qui fusille. Mais on peut se dire qu'en Algérie, l'islamisme ne donnera pas les mêmes résultats. Est-ce que l'islamisme en Algérie peut faire peur? Qu'est-ce que l'Algérie a à perdre d'une expérience
oui,
américaine?
J'ai eu déjà l'occasion de parler avec des journalistes et effectivement, j'entends toujours le mot peur, et vous-même, vous êtes en train de l'utiliser et de le répéter. On a peur de l'islamisme en Iran, en Algérie.
Tel que l'expérience iranienne.
Oui, eh bien oui, mais il faut informer l'opinion occidentale et il faut lui montrer la genèse historique, encore une fois, de ces phénomènes-là que l'on appelle en gros comme ça de phénomènes islamistes. Car on n'est pas suffisamment informé en Occident du fait que la genèse de ces mouvements, qui, je le souligne, sont des mouvements politiques, pas des mouvements religieux. Il ne faut pas imputer à l'islam ces phénomènes-là.
Ce sont des phénomènes purement politiques.
Purement politiques et sociaux, et culturels et économiques.
L'islam n'est qu'un prétexte.
Oui, où l'islam fournit du vocabulaire, c'est tout. Il fournit du vocabulaire. Et il fournit aussi un certain nombre de cadres mythologique, comme je l'ai expliqué tout à l'heure pour l'âge d'or. Voilà ce qu'il fournit. Autrement, l'islam n'est pas responsable du tout de ces choses-là. Du tout. Il faut quand même l'innocenter de tout ce qui se passe en son nom. Donc, il faut bien expliquer en Occident que l'histoire de ces pays-là est intimement liée à l'histoire des pays d'Occident. J'ai évoqué la domination coloniale. La domination coloniale s'est terminée dans les années 50 et même 60. L'Algérie est indépendante en 1962. Nous constatons que cette page d'histoire extrêmement importante pour ces pays-là est complètement oubliée. On n'en parle plus en Occident, comme si ça ne s'était pas passé. Mais les guerres coloniales ont laissé des traces profondes dans ces pays-là. Et ce sont elles qui sont responsables, par exemple, du grand déplacement des populations et donc de la déstructuration des solidarités traditionnelles, de la cassure du tissu social traditionnel et du transfert de populations des campagnes vers les villes, avec tous ces phénomènes urbains que nous connaissons aujourd'hui. Et la clientèle de ceux que l'on appelle les islamistes est une clientèle essentiellement urbaine dans les grandes cités, où des concentrations humaines tellement considérables se sont produites pendant les 20-30 dernières années et où les problèmes se sont multipliés en relation avec une stratégie économique de l'Occident vis-à-vis de ces pays-là. Car il faut ici analyser ces phénomènes en termes de balance des paiements pour les pays occidentaux. Nous savons tous que les pays occidentaux se battent, l'Allemagne, l'Angleterre, la France, l'Italie, l'Espagne, les États-Unis, le Japon, bien sûr, ils se battent pour la conquête des marchés dans ces pays si populeux, où il y a tant de consommateurs. Voilà un aspect des problèmes qui ne sont jamais évoqués lorsqu'on parle de l'islamisme. Or, les exportations et les accords commerciaux économiques qui sont faits avec ces pays-là ne prennent jamais en considération les conséquences, par exemple, d'une industrialisation sur un pays archaïque et sur un pays de tradition très ancienne qui n'a pas bénéficié de l'évolution industrielle lente comme elle s'est opérée dans les pays d'Occident.
Oui, on comprend mieux les progrès
massifs. L'Algérie, l'Irak, l'Arabie saoudite, le Pakistan sont des exemples frappants à cet égard. Et l'Iran, la révolution islamique, comme on l'a appelée en Iran, est liée au volontarisme du Shah à vouloir introduire justement toute une activité industrielle et toute une activité économique en relation avec les grandes firmes d'Occident qui faisaient d'excellentes affaires avec le Shah.
Oui, bien sûr. Mais alors maintenant, qu'est-ce que l'Algérie a gagné de l'expérience islamiste ? Imaginez que les élections législatives aient lieu et qu'Abbassem Madani devient Premier ministre d'Algérie. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à perdre pour les Algériens dans cette histoire, dans cette aventure ou dans ce qui pourrait se passer ?
Ce que nous pourrions perdre, c'est essentiellement du temps pour poser correctement les problèmes qui doivent l'être.
Pour vous, les islamistes posent mal les problèmes.
Il y a des protestations qui sont tout à fait légitimes de leur part. Parce qu'il y a eu toute une évolution politique pendant 30 ans qui a fait qu'il y a beaucoup de mécontents en Algérie et l'expression politique n'a pas pu se faire d'une manière suffisamment libre et par conséquent, il est normal qu'une société, après 30 ans, puisse exprimer une autre orientation de sa politique. Donc il y a là une expression politique qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui, du point de vue de la respiration démocratique de la société algérienne, est à mes yeux quelque chose de sain. Je ne porte pas de jugement de valeur sur cette expression politique. Mais en tant qu'expression politique, il faut quand même souligner le caractère positif du fait que le FLN, parti dominant jusqu'à présent, a quand même laissé se dérouler cette consultation d'une façon assez libre pour que nous ayons les résultats que nous avons. Ça, c'est à mettre au crédit du président de la République algérienne et du gouvernement. Et d'autre part, il y a aussi à mettre au crédit de ceux qui ont voté le fait qu'ils ont exprimé quelque chose. Maintenant, le jugement de valeur apporté, le jugement de valeur politique apporté sur ce vote, ça, c'est une autre affaire. C'est une autre affaire. Et tout ce que je puis dire à cet égard, c'est que je souhaite personnellement qu'il y ait un climat démocratique, un climat de liberté qui permette de poursuivre le débat démocratique sur les problèmes considérables et nombreux qui se posent à la société algérienne aujourd'hui. Ça, il faut le souhaiter absolument. Que le fils gagne ou qu'un autre gagne, c'est l'expression politique, encore une fois, démocratique d'un pays, il faut la respecter, mais il faut souhaiter et il faut appeler à la continuation de cette liberté démocratique pour que les citoyens algériens puissent continuer à animer un débat démocratique sur des questions, encore une fois, dont beaucoup sont encore mal posées ou sont encore même camouflées, non encore posées.
Oui, professeur Harkoun, l'islamisme se comprend peut-être en Algérie. Est-ce que vous le comprendriez en France, pour les musulmans qui vivent en France ?
Alors, les musulmans qui vivent en France, je l'ai toujours dit et souvent dit, doivent absolument s'efforcer de bénéficier du climat démocratique qui est acquis en France. En France, il y a une démocratie qui fonctionne. Et donc, il y a une possibilité de traiter de ces problèmes avec tous les moyens que peut offrir la culture qui existe en France, la vie intellectuelle qui existe en France, les diverses institutions qui existent en France. Et cela est une chance historique, justement, pour avancer dans cette recherche de solutions adaptées, de solutions modernes à des problèmes qui sont posés à l'ensemble des sociétés musulmanes. Ces recherches peuvent s'accomplir en France dans un climat, on peut l'espérer, de sérénité et aussi dans un climat d'efficacité qui peuvent aider justement une réflexion dans les pays musulmans eux-mêmes et en particulier dans les pays du Maghreb qui, après tout, sont tellement proches de la France.
Vous voulez dire, professeur Harkoun,
il y a un espace de liberté.
De liberté qui permet la réflexion.
Permet la réflexion, la recherche et la discussion. Indispensable, à mon avis, dans tous les pays musulmans aujourd'hui.
Mais si je peux interpréter votre pensée, vous voulez dire par là que les Français musulmans peuvent réfléchir sur leur islam et sur la manière de l'adapter aux lois républicaines
de
la France.
Par exemple, les musulmans en France doivent absolument réfléchir aux apports positifs de la pensée laïque, de la laïcité. La laïcité est perçue de manière à tort, de manière essentiellement négative par une fraction très importante de l'opinion musulmane. Elle est perçue négativement parce que on croit que la laïcité est nécessairement une attitude anti-religieuse.
Ce n'est pas le cas.
Ce qui est absolument faux. La laïcité est une attitude philosophique. Et l'attitude philosophique est une attitude tolérante par excellence. C'est une attitude d'ouverture. Et c'est une attitude qui veut comprendre pour éclairer l'action. Donc c'est quelque chose d'absolument précieux. Et dans des sociétés plurielles, où coexistent des groupes ethnoculturels d'appartenance variée, de confessions religieuses ou philosophiques variées, la laïcité est la seule réponse adaptée pour faire coexister dans un même espace politique et social, justement, des groupes qui peuvent s'enrichir de leurs différences, de leurs discussions, de leurs échanges, à condition qu'elles soient conduites dans un espace laïque. Voilà, par conséquent, une leçon formidable que les musulmans peuvent prendre, mais que les Français aussi doivent prendre de ces confrontations, parce que les Français n'ont pas encore acquis tous cette conception tolérante, ouverte, enrichissante, accueillante de la laïcité. Je fais la distinction entre un laïcisme militant qui fonctionne comme une sorte de religion dogmatique, n'est-ce pas, et puis cette laïcité telle que je viens de la définir et qui, elle, est encore une fois une leçon pour toutes les sociétés et tous les hommes.
Mais est-ce que cette réflexion sur l'islam et la manière dont on pourrait le faire correspondre à la modernité de la France, est-ce qu'elle a déjà commencé, la France, est-ce qu'elle a déjà commencé?
Oui, bien sûr, il y a des musulmans, des intellectuels musulmans qui s'intéressent beaucoup à ce genre de problème parce qu'ils sentent parfaitement que on ne peut pas entrer dans la modernité si on n'introduit pas ce climat de liberté et si on ne permet pas à tous les citoyens d'affirmer leurs convictions et de soumettre leurs convictions au débat, au grand débat de société.
Mais est-ce que ces théologiens français travaillent ensemble? Est-ce qu'ils se connaissent?
Jusqu'à présent, ils se connaissent sûrement, personnellement, individuellement, mais malheureusement, jusqu'à présent, il n'existe pas encore d'espace que l'on puisse désigner ou d'institution que l'on puisse désigner et qui permettrait de dire il y a là une sorte d'école qui travaille et qui anime ce type d'idées. Ce sont surtout des personnalités qui existent au Maghreb, qui existent en Égypte, en Syrie, enfin dans divers pays musulmans, mais malheureusement de façon extrêmement dispersée. Il y en a également en Amérique, il y en a dans les différents pays européens. S'il y avait une instance pour réunir tout ce monde-là, ça ferait beaucoup de monde.
Et ça aiderait beaucoup.
J'ajoute que ces voix, parce qu'elles sont isolées, justement, ne sont pas très connues. Et il y a une sorte d'injustice à mettre l'accent exclusivement sur les mouvements dits islamistes parce qu'ils apportent des problèmes politiques auxquels s'intéressent en priorité les journalistes, alors que ces intellectuels, ces chercheurs, ces animateurs de la pensée...
Qui veulent d'ailleurs faire qu'on puisse être à la fois musulmans et républicains.
Oui, ceux-là ne sont pas connus et on n'en parle pas.
Mais alors, on n'en parle pas. Est-ce que vous souhaitez la création d'un organisme qui regrouperait les théologiens musulmans français?
Ah, moi je le souhaite, bien sûr. Je le dis souvent avec mes amis et mes collègues. On essaye toujours, mais on n'arrive pas à lancer quelque chose parce que il y a des difficultés nombreuses d'ordre d'abord matériel, bien sûr, mais il y a aussi des difficultés d'ordre politique. Par exemple, en France, il est souhaitable que les autorités françaises elles-mêmes s'intéressent à la création d'un espace scientifique d'expression de l'islam, oui, en France, à un niveau national. Ça, c'est une chose importante. Nous vivons des événements extrêmement importants chaque jour qui interviennent dans les différents pays musulmans et la population musulmane de France ne peut pas avoir de lieu de référence pour pouvoir demander une information de type scientifique, pour pouvoir interpréter ces événements et essayer de les vivre justement à un niveau de réflexion qui soit digne de la réflexion moderne. Les musulmans sont livrés à eux-mêmes sur le plan intellectuel et sur le plan de la connaissance.
Mais c'est vrai, finalement, Hallaj a été exécuté autrefois pour avoir voulu se forger un islam à partir de sa réflexion personnelle.
Oui.
Et aujourd'hui, on oblige tous les musulmans français à réfléchir chacun dans son coin. Il n'y a pas de vrai guide.
On ne les oblige pas, ils sont réduits par toutes sortes de nécessités à rester isolés, malheureusement. Il est difficile de dire pourquoi, très exactement, ils ne parviennent pas à former un mouvement, parce que l'intellectuel aussi répugne à appartenir à quelque chose d'organisé qui prendrait tout de suite une marque politique.
Oui.
Je sais que mes collègues et amis pensent exactement la même chose. L'intellectuel, pour exercer sa fonction critique, critique de réflexion, bien sûr, pas critique négative de rejet et de démolition, pas du tout, c'est une critique au sens philosophique, au sens historique, etc., doit être libre de toute attache politique affichée.
Est-ce que vous êtes amer quand vous voyez que le ministre des cultes français a formé un conseil supérieur islamique qui finalement, à part fixer les dates du ramadan, n'a pas servi à grand chose jusqu'ici?
Amer, non, je ne suis pas amer parce que je sais que la formation de ce conseil a demandé beaucoup d'efforts. Ça n'était pas évident étant donné qu'il y a
beaucoup... Est-ce que ce conseil est utile?
Jusqu'à présent, je ne sais pas ce qu'il a fait. J'ignore absolument s'il a abouti à des décisions qui soient dignes d'être mentionnées jusqu'à présent. Mais d'après ce que je sais et ce que l'on m'a dit, parce que je n'en fais pas partie et je ne sais pas du tout comment ça marche, c'est un conseil qui est censé débattre des demandes, des besoins des communautés musulmanes qui vivent en France pour voir quelles sont les réponses à apporter à ces demandes et à ces besoins. Et éventuellement, ce conseil pourrait être une sorte de porte-parole de ces demandes émanant de diverses communautés musulmanes vivant en France auprès des autorités françaises qui pourraient à ce moment-là aider à résoudre ces besoins. J'ai compris ça comme ça. Alors, est-ce que ça fonctionne de cette façon-là? Est-ce que ça va fonctionner de cette façon-là? Je n'en sais absolument rien.
Oui, mais ça ne règle
en rien. Je ne suis pas tenu au courant et je ne sais pas du tout comment
ça marche. Ce genre d'objectif ne règle en rien les besoins existentiels.
Oui, de toute façon, même si cette chose-là réussissait, je veux dire, même si ce conseil réussissait à être ce lieu de concertation, ce lieu d'échange sur les besoins, les demandes, etc., et l'évolution des communautés musulmanes en France, même si ça réussissait, ce que personnellement je souhaite, parce qu'on en a besoin, il resterait quand même que ce conseil ne constitue pas du tout cette instance d'expression scientifique dont je parlais tout à l'heure. Celle-là reste à créer. Et ce ne sont pas les personnalités religieuses très respectables qui siègent dans ce conseil qui peuvent animer ce centre de réflexion et de recherche qui, lui, aurait une vocation essentiellement scientifique, d'information scientifique et de recherche scientifique sur les problèmes posés par l'islam, non seulement en France, mais dans l'espace européen qui est en train de se constituer. Et à partir de l'espace européen et profitant, comme je l'ai dit, des libertés et des moyens qui existent dans les pays d'Europe, aborder des questions très très importantes qui intéresse le vaste monde musulman, car humainement, le monde musulman pèse 1 milliard d'hommes. Ça n'est pas rien.
Mais est-ce que l'islam sur lequel réfléchissent ces théologiens, c'est un islam redécouvert dans sa spiritualité
Oui,
islam qui s'éloigne des traditions d'autrefois?
Oui, vous avez raison d'évoquer la question de la spiritualité. Voilà justement une question que l'on oublie complètement dans les débats. Et il est extrêmement important de rappeler que l'islam est une religion et que l'islam enseigne en particulier la vocation spirituelle de la personne humaine. C'est extrêmement important. Or, cette vocation se trouve pratiquement éliminée des débats actuels qui sont essentiellement des débats politiques. Voilà un lieu de divorce extrêmement important entre l'islam comme religion et puis les engagements politiques, les modèles politiques que des citoyens, en mal de modèles justement, essayent de mettre en œuvre pour résoudre des problèmes actuels. Et ça, ça pose des problèmes considérables. Et la spiritualité est inséparable d'une culture très forte et très riche. Il y a eu une spiritualité très riche en islam dans la période classique parce que cette spiritualité pouvait s'appuyer sur une activité intellectuelle et scientifique extrêmement riche dans la période que j'ai indiquée. Alors qu'aujourd'hui, il y a une sécularisation de fait des sociétés musulmanes par le système économique moderne qui est en usage et qui est introduit partout, par les structures de l'échange, par le rapport à l'argent, par le rapport à toute l'activité des sociétés actuelles, il y a une sécularisation de fait. Et une perte, par conséquent, comme dans les sociétés occidentales, une perte de possibilité de développement spirituel de la religion. Ça, c'est un problème qui est commun, malgré les apparences.
Et ça, c'est un problème que pourrait résoudre un conseil de réflexion religieuse
sur
l'islam.
Bien sûr, à condition qu'il y ait toujours cette évolution d'ordre culturel que j'évoquais tout à l'heure, évolution qui ne peut elle-même exister que dans une démocratie strictement défendue.
C'est-à-dire que l'islam en France a une chance.
Oui.
Et il faudrait qu'elle soit saisie.
Oui, absolument.
Professeur Harkoun, je rappelle à nos auditeurs que vous avez écrit un livre, le dernier livre dont vous êtes l'auteur, s'intitule « Ouverture sur l'islam » aux éditions Jacques Cranchet. Et vous y répondez en 25 questions sur des problèmes essentiels concernant les musulmans.
Oui.
Je vous remercie d'être venu. Voyez, le temps passe très très vite.
Très vite, oui.
Nous arrivons à la fin de cette émission, mais j'espère que tout ce que nous avons dit ne tombera pas dans l'oreille d'un sourd.
Je l'espère aussi, et que ça produira des débats encore plus ouverts, plus enrichissants, à la fois pour les musulmans qui vivent en France, pour les musulmans des pays musulmans, mais aussi pour les sociétés européennes elles-mêmes, car je crois qu'elles ont elles-mêmes beaucoup à gagner à un débat ouvert sur ces questions-là.
Merci, professeur Harkoun.
Une heure pour informer. Une émission de Daniel Camilleri sur Radio Orient.